Voilà, comme Daniel nous y a introduit, on est dans ce temps de l'Avent actuellement. Premier dimanche de l'Avent où on veut aussi prendre le temps de se préparer à Noël, pas simplement y arriver sans trop y réfléchir, mais quelle est la signification de Noël, de se rappeler, se réjouir de ce que Dieu a fait pour nous, comme on l'a chanté à plusieurs reprises dans ces chants, le fait que Dieu soit intéressé à nous et à manifester son amour de manière très concrète et très pratique. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc. On va prendre les textes qu'on avait mis un peu de côté jusqu'à présent, c'est les textes de la Nativité. L'année dernière, on en avait vu deux en particulier. On avait commencé un troisième et on va repartir avec celui-là, c'est ce temps où, en fait, Marie chante sa joie à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. On avait commencé avec l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à son père Zacharie par l'ange Gabriel, ainsi que l'annonce de la naissance de Jésus à sa mère Marie, avec cet appel à voir, se voir tel que nous sommes, ce besoin de changer et cet appel à la foi, comme Marie est un grand exemple pour chacun d'entre nous. Et nous poursuivons avec ce chapitre 1, verset 39, Marie qui va visiter Élisabeth. Je voudrais juste rappeler que Luc écrit ce récit avec celui des Actes, c'est un seul récit, hein, même si on l'a séparé en deux dans nos Bibles, pour affermir, pour rappeler, pour que Théophile, son destinataire, soit sûr qu'il reconnaisse la certitude des enseignements qu'il a reçus. C'est-à-dire pour vraiment soit affermir sa foi, ou alors vraiment pour le conduire à la foi, s'il n'était pas encore converti. Et donc, Luc choisit précisément, spécifiquement, certains éléments qu'il veut nous transmettre pour que nous puissions vraiment connaître qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est venu faire et qu'est-ce qu'il attend de moi? Et nous poursuivons alors notre lecture à partir du verset 39. En ces temps-là, en ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Nous avons ces deux mères qui se rencontrent où il y a eu ces deux annonces particulières de naissance. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasser de biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Notre texte ici déborde pleinement de joie. Il y a la joie d'Élisabeth qui est manifestée et qui parle sous la conduite du Saint-Esprit, nous dit notre texte. Il y a la joie de Jean-Baptiste ici qui tressaille dans le ventre de sa mère. Et la joie de Marie qui exprime son adoration envers Dieu pour ce qu'il est sur le point d'accomplir. Ce n'est pas encore fait, mais elle exalte Dieu parce qu'il est en train de faire quelque chose. Et à travers de ces joies qui ne sont partagées par Élisabeth, par Jean-Baptiste, qui n'est pas encore né, et par Marie, quelque part, il nous invite, Luc aussi, à notre tour, à être dans la joie. Dans la joie pour ce que Dieu est sur le point de faire à cette époque-là, pour la joie par rapport à ce que Dieu a déjà accompli, sur le bouleversement, en fait, qu'il est en train d'accomplir. Et c'est ce que j'aimerais mettre en avant. Jésus, justement, l'enfant à naître, vient pour bouleverser nous et nos valeurs pour notre joie. Il vient pour nous bouleverser, nous et nos valeurs, pour nous conduire dans la joie. Et je vous propose de reprendre quelques éléments du texte pour mettre cela en avant. Ce qui est assez remarquable, effectivement, comme dit dans notre texte, c'est la joie, mais surtout la direction de la joie. En fait, tout se porte en direction de l'enfant de Marie. Et pas du tout sur Élisabeth elle-même, même pas en fait pour Élisabeth qui est enceinte, c'est même pas sa joie se porte parce qu'elle est enceinte ou parce qu'il y a un enfant qui va naître d'elle. Mais elle se porte aussi vers l'enfant de Marie. Effectivement, si on reprend un peu l'ordre des événements, Marie arrive chez Élisabeth, elle la salue, on ne sait pas comment, ça ne nous est pas dit, mais avant que Marie puisse expliquer quoi que ce soit, qu'elle puisse lui dire ce qui lui est arrivé, ce que l'ange lui a annoncé, en fait, l'enfant d'Élisabeth tressaillit, nous dit le texte, dans son sein. Et parce que son enfant, et elle le sent tressaillir d'allégresse, nous dit le texte, dans son sein, alors Élisabeth s'exprime. Et elle exprime à son tour sa joie. Verset 43. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Et tout cela, c'est sous la conduite du Saint-Esprit. Élisabeth fut remplie d'Esprit-Saint. Donc ce n'est pas la présence de Marie qui entraîne la joie. Étonnamment, pour une femme enceinte, ce n'est pas son enfant qui lui donne de la joie, mais c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ, qui est encore juste un embryon, provoque ici de la joie. Et cette joie, comme dit, provient de la révélation du Saint-Esprit, parce que Marie n'a encore rien pu dire sur sa grossesse. Et en effet, voilà ce que nous dit le verset 15 du chapitre 1, par rapport à Jean-Baptiste. « Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Chose assez extraordinaire dans l'histoire du salut, dès le sein de sa mère. Conduit par le Saint-Esprit, l'enfant, dans le ventre d'Élisabeth, tressaille de joie. Et ça, Élisabeth le remarque et à son tour, elle est remplie d'Esprit-Saint. Et plus tard, ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est le père Zacharie qui va être rempli d'Esprit-Saint aussi. Et le fils, la mère et le père ne vont pas du tout parler d'eux. Ils vont à peine mentionner le fils, mais tout sera en direction de cet enfant de Marie qu'elle a dans son sein. Et maintenant, c'est Marie, elle, qui exprime sa joie face à cette incarnation. Verset 46, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit a de l'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » C'est quoi la grande chose que le Tout-Puissant a fait ? Et encore une fois, ça nous dirige vers cette grossesse. La grande chose, c'est cette grossesse. Ce n'est pas que Marie va être source de bénédiction. Pardon. Ce n'est pas que Marie va donner de la bénédiction elle-même, mais c'est qu'elle-même est bénie. Et c'est cette bénédiction, c'est cette grossesse, et c'est cette grossesse, cet enfant à venir qui, à son tour, va pouvoir bénir les autres. Ce n'est pas par rapport à elle-même. Donc, toute une joie d'Élisabeth et de Marie à cause de ce que Dieu est en train de faire. Et pourtant, si on réfléchit à la circonstance de ces deux femmes, quelles sont leurs circonstances de vie ? Marie, elle, n'est pas forcément dans une situation facile. Comme on avait vu et comme le texte nous le présente avant, Marie est une jeune fille fiancée. elle est enceinte. Et ça, ça s'annonce mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce que son fiancé va dire? En fait, c'est là tout son projet d'avenir, tout son mariage qui risque d'être compromis par ce que Dieu a fait. C'est tout le regard de ses parents, tout le regard de sa société qui sont compromis pour elle. Elle risque de ne plus avoir d'avenir à cause de ce que Dieu est en train de faire. Et elle dit quoi? Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a fait pour moi de grandes choses. Donc ce n'est pas sa situation présente, sa situation matérielle, sa situation relationnelle avec les autres qui lui donne de la joie. La situation, sa joie provient de ce que Dieu a fait. Et la situation de Marie n'est pas, pardon, d'Élisabeth n'est pas forcément beaucoup mieux. Elle aussi, elle vit sous l'occupation romaine, donc pas de liberté. Et elle est vieille, notre Élisabeth. Et franchement, en tant que vieille, s'occuper d'un enfant, c'est pas forcément une partie de plaisir qui s'annonce, n'est-ce pas? Et pourtant, elle peut dire « Je suis dans la joie, pas à cause de mes circonstances présentes, comme Marie, mais je suis dans la joie aujourd'hui parce que Dieu a fait quelque chose pour moi. » Et cette joie, encore une fois, elle exprime, verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?» Et là, on doit se poser la question, mais elle parle de qui? Qui est le Seigneur d'Élisabeth? Alors parfois, c'est une façon polie de parler de son mari, n'est-ce pas? Vous, mesdames, si vous voulez faire plaisir à votre mari, à midi, vous lui direz « Mon Seigneur, viens à table, je t'accueille, je t'ai fait un bon repas. » Mais elle ne parle pas de son mari, là, non? Regardons un peu comment Luc emploie ce terme depuis le début de son récit. Verset 6. Tous deux étaient juste devant Dieu, donc Élisabeth et Zacharie, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Le terme Seigneur ici fait référence à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Verset 9. Il fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le temple du Seigneur. Ça fait référence à qui? À Dieu. Verset 11. Alors lui apparut un ange du Seigneur. Ça fait référence à qui? Toujours à Dieu, l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël. Verset 15. Car il était grand devant le Seigneur. Toujours Dieu. Verset 16. Et il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Donc ce coup-ci, on le précise en plus pour qu'on soit bien clair. Donc le Seigneur fait clairement référence à Dieu. Verset 17. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse, pour préparer au Seigneur. Toujours à Dieu, avec référence à Ésaïe. Verset 25. Voilà ce que le Seigneur, dit Élisabeth, a fait pour moi. Encore une fois, ce terme Seigneur parle de Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel, Yahvé, notre Créateur. Verset 28. Gabriel entra chez elle, chez Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ça fait référence à qui? Voilà, merci. Toujours à Dieu, effectivement. Il faut lire avec moi, réfléchir avec moi, hein, je ne suis pas le seul. Verset 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Encore une fois, effectivement, Dieu, verset 38, Marie dit, voici la servante du Seigneur. Donc, tout un ensemble de références qui nous parlent à chaque fois que Luc a employé ces termes dans la bouche des différents personnages, Seigneur fait toujours référence à l'Éternel, le Dieu d'Israël, Yahvé. Ce texte est saturé de l'expression Seigneur pour parler de l'Éternel. Et maintenant, on a cette nouvelle expression. Comment la mère de mon Seigneur vient-elle chez moi? Et comment comprendre ici ce terme Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur est dans le ventre de Marie? Qui est ce Seigneur? Et avec la saturation d'expressions dans le texte jusqu'ici, ça ne veut nous dire qu'une seule chose. Yahvé, l'Éternel, notre Créateur, se fait petit enfant. Et voilà la raison de la joie de Jean-Baptiste, la raison de la joie de Marie et la raison de la joie d'Élisabeth. tout notre récit ici, en fait, est braqué, orienté, non pas sur Marie, non pas sur Élisabeth, parce qu'on est content qu'elles se rencontrent ensemble, mais à nouveau sur cet enfant à naître, Jésus-Christ. Jésus, cet enfant à naître, est notre Créateur, est notre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est à lui qu'il faut prêter attention. Et ça veut nous dire, notre Dieu vient vers nous. Notre Dieu s'approche de nous. Et ça nous rappelle quoi ? À quel moment l'Éternel a été aussi proche des êtres humains ? À quel moment dans l'histoire l'Éternel a été aussi proche de l'être humain ? Au Jardin d'Éden. Jamais depuis le Jardin d'Éden, Dieu a été aussi proche que ce qui va se rendre maintenant. Et tout ça nous dit cette chose qu'on a pu chanter et dire déjà. Notre Créateur continue à nous aimer. Il ne vient pas pour juger, mais il vient pour nous tendre la main. Il vient pour nous dire, tu as de la valeur et je t'aime. Je m'intéresse à toi, qui que tu sois. Alors à cause de cela, la joie est grande. Et à cause de cela, Luc écrit à Théophile, il dit, Théophile, aujourd'hui, toi aussi, tu peux être dans la joie. Non pas à cause de tes circonstances, comme Marie et Élisabeth, mais à cause de la chose suivante. Parce que notre Dieu, notre Créateur s'est approché de nous et nous dit, je t'aime, tu as de la valeur. Question que je te pose, est-ce que tu as de la joie aujourd'hui ? Est-ce que tu es dans la joie ? Peut-être tu connais des circonstances pas forcément faciles, comme on a parlé pour Hans, n'est-ce pas, qui passe par la maladie. Mais comme Marie et Élisabeth, Dieu est en train de nous dire ici, nous rappeler, tu peux être dans la joie pas à cause de ce que tu vis, pas à cause de ce que tu es, mais à cause de ce que Dieu fait pour toi, à cause de ce que Dieu a fait pour toi, à cause de la grande déclaration de cette naissance qui veut dire, je t'aime, tu as de la valeur pour moi. Et effectivement, cette incarnation qui a commencé ici est le début de ce grand mouvement qui va aller et qui va aboutir à la crucifixion, à la résurrection et à l'envoi du Saint-Esprit pour nous dire, Dieu s'intéresse à nous. Et en fait, ce récit biblique nous dit la chose suivante, en fait. C'est que l'histoire de la Bible, du début à la fin, n'est pas une histoire de voilà ce que tu dois faire ou voilà ce que tu ne dois pas faire. Voilà ce que tu as le droit ou voilà ce que tu n'as pas le droit. Mais le récit biblique, l'histoire de la Bible, est une histoire d'amour. C'est une grande histoire d'amour, c'est une grande histoire romantique où le Dieu rejeté s'approche de sa créature et lui dit « Je t'aime constamment, constamment et constamment. Et je viens vers toi, je viens te chercher, toi qui m'as rejeté, je viens te chercher. À cause de cela, il y a de la joie. » Et c'est vrai que tu pourrais me dire, à juste titre, et c'est la même chose pour moi, « Oui, mais Jésus-Christ, on ne le voit plus, n'est-ce pas ?» Et parfois, c'est notre frustration. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. Et Jésus-Christ nous a dit que c'était une très bonne nouvelle qu'il parte. Parce que c'est parce qu'il part que tout le monde peut avoir accès à lui. C'est parce qu'il part que le Saint-Esprit est venu pour habiter chacun de ses disciples et dire à chacun de ses disciples, personnellement, je vis en toi parce que je t'aime. Je suis venu vers toi parce que tu as de la valeur personnellement. Alors comme Marie, Élisabeth et Jean-Baptiste, nous pouvons aujourd'hui être dans la joie. Mais après avoir dit ce que Dieu a fait pour elle, Marie ici continue son cantique. Elle continue son cantique en nous précisant les raisons de sa joie. Et elle entoure son cantique, cette deuxième partie, en nous expliquant la raison de sa joie. Verset 50, « Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Et verset 54, « Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. » Voilà pourquoi on est dans la joie. Parce que le Dieu qui nous aime est plein de miséricorde. Ça veut dire quoi la miséricorde ? Alors que nos premiers parents Adam et Ève venaient de le rejeter en le méprisant, en le considérant comme un gêneur, comme un empêcheur de tourner en rond, et qu'ils ont connu à cause de cela la honte, la peur et la culpabilité, Dieu n'a pas écrasé Adam et Ève. Dieu n'aura pas dit, « Eh bien, tant pis pour vous, c'est votre problème, vous avez ce que vous vouliez. » Il n'aura pas non plus dit, « Débrouillez-vous maintenant. » Non, dès le départ, Dieu a étendu sa miséricorde sur Adam et Ève. Dès la rébellion, dès le rejet, Dieu a étendu sa main et s'est engagé. Il s'est engagé en leur disant, « En fait, je ne vais pas vous laisser dans cet état. Je vais faire quelque chose pour vous. » Et ce quelque chose n'est pas encore très clair, n'est-ce pas ? C'est cette parole de Dieu ici à Adam et Ève, quand il parle au serpent, qui leur dit, « Je mettrai inimitié entre toi, donc le serpent, celui qui a causé la destruction, celui qui a causé la rébellion, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Celle-ci t'écrasera la tête. Donc la descendance de la femme va t'écraser la tête. Donc tu vas être mal barré, mon grand. Et tu lui écraseras le talon, mais il va souffrir. Ça va lui faire mal. Et ce n'est pas encore clair ici, n'est-ce pas ? Dieu va préciser avec le déroulement du récit biblique c'est exactement ce qu'il va faire. Mais en substance, Dieu est en train de dire ceci au Satan et au final à Adam et Ève. Un jour, je vais venir sur cette terre. Et un jour, je vais me faire homme dans l'humilité afin que ce jour-là, c'est moi qui vais assumer le coût de votre bêtise. C'est moi qui vais venir et payer votre bêtise pour vous. Tel un parent, vous savez, n'est-ce pas ? Quand vos enfants n'arrêtent pas de casser les verres de la cuisine, n'est-ce pas ? C'est qui paye ? C'est jamais les enfants, c'est les parents qui assument le coup. Mais là, face à cette énorme bêtise, Dieu dit, un jour, je vais venir. Tu devrais mourir, mais c'est moi qui vais mourir pour toi. Pourquoi ? Parce que je t'aime. Parce que tu as de la valeur. Voilà le cœur de Dieu, de secourir ceux qui sont dans la détresse, de ceux qui sont empêtrés dans les difficultés de la vie. Dieu est grand en miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Et Marie nous rappelle ici pour qui est cette miséricorde, verset 50. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui le craignent. Ici, en nous rappelant ces paroles, Luc est en train d'anticiper la suite du récit, notamment le récit des Actes, où la miséricorde de Dieu s'ouvre à qui ? Pas seulement aux Juifs, mais aussi d'abord aux Samaritains, et ensuite aux païens, à tous les peuples. Cette miséricorde n'est pas que pour les Juifs, pas que pour le peuple, mais elle est pour tous ceux qui le craignent. Ceux de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tous âges, de toutes conditions, pour ceux qui le craignent, pour que ceux qui s'attachent, pour ceux qui comprennent leurs besoins de Dieu, pour ceux qui comprennent leur rébellion, leur séparation, Dieu est venu pour eux. Et Luc nous dit, Théophile, c'est aussi pour toi. Non seulement la joie, mais la miséricorde est aussi pour toi. Et c'est encore, cela est encore vrai pour nous aujourd'hui, les théophiles modernes. Quel que soit ton passé ou ton présent, la joie et la miséricorde sont là. Et voilà comment va s'exprimer, nous dit Marie, cette miséricorde, verset 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône et élever les humbles. Rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. Il y a un renversement complet de situation de valeur, une vraie révolution sociale, mais pas n'importe quelle révolution sociale. Dieu n'est pas simplement contre les riches et pour les pauvres. Effectivement, si nous lisons bien notre Bible, on voit qu'il y a plusieurs textes qui nous montrent que Dieu a mis des personnes en situation de gouvernance, d'autorité très élevée, mais aussi Dieu qui a accordé de grandes richesses à certaines personnes. Exemple, le roi David. Dernièrement, en fait l'année dernière, j'ai pu lire ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est assez intéressant. Dictatorland. Les hommes qui ont volé l'Afrique. En fait, ça nous parle un peu de cette période après la décolonisation où notamment les Anglais et les Français, les Belges aussi, sont partis de leur colonie africaine. Et ils ont remis la gouvernance de leur pays, de leur colonie, aux membres, aux peuples de ces pays-là. Et rapidement, en fait, il y a eu des guerres qui se sont installées dans ces pays, des affrontements entre différentes ethnies ou entre des factions opposées. Et il y a eu vraiment des guerres très sanglantes et des personnes sont arrivées au pouvoir, comme Kadhafi ou autres. Et il nous montre, et c'est un journaliste de la BBC qui a fait ce livre-là, il nous montre à quel point, en fait, ces personnes-là ont massacré leur peuple et les ont volés. Ils se sont enrichis grâce au pétrole de leur pays. Ils se sont enrichis grâce aux diamants et aux mines de minerais de leur pays. Et ils ont mis des millions et des millions en Suisse, en France. L'année dernière, il y a une question là, de voitures de luxe là, par rapport à un dictateur, un fils de dictateur, qui sont bloqués à Genève. Mais ces anciens opprimés sont devenus les oppresseurs. Ces anciens pauvres et affamés sont devenus les riches qui ont affamé les nouveaux. Ce n'est pas de cette révolution sociale que nous parle le texte ici. Ce n'est pas de cette révolution sociale que nous parle la Bible. Mais c'est une révolution beaucoup plus en profondeur. Et c'est vrai aussi ce qui s'est passé, c'est vrai que je l'ai noté là, mais ce n'est pas qu'en Afrique, hein. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un reportage cette semaine, et il va repasser demain soir, si ça vous intéresse, sur France 4. Le après-Hitler, qu'est-ce qui s'est passé à la libération ? Non seulement en France, en Allemagne, en Russie, mais encore dans les années à venir, les quelques années qui se sont passées. Et il y a un soldat qui a fait la remarque suivante. Avons-nous vraiment combattu la barbarie pour devenir à notre tour barbare? Avons-nous combattu la barbarie pour devenir à notre tour barbare? Et il dit cela parce qu'il nous montre toute la vengeance qu'il y a eu lieu à la libération. Comment les collaborateurs ont été traités? Ils avaient tort, mais comment ils ont été traités? Comment les prostituées ont été traitées? Comment les jugements hâtifs ont été faits? Et c'est extrêmement violent et moche. Révolution sociale qui n'a rien changé en Afrique, révolution sociale qui n'a rien changé dans nos pays. Et ce texte, en fait, de la Bible nous dit, c'est pas cette révolution sociale que Dieu est venu apporter. C'est pas un changement de rôle, c'est un changement de cœur. Un changement de valeur. Ce n'est plus vivre selon les valeurs qui sont si chères au cœur humain que sont la puissance et la richesse. Mais c'est vivre selon les valeurs de Dieu qui sont chères au cœur de Dieu, l'humilité et la dépendance envers notre Créateur grâce à cette relation qu'il est venu nous offrir. Il est venu bouleverser nos valeurs et notre être. Et si on continue à lire l'évangile de Luc, les paroles de Jésus-Christ sont assez bouleversantes. Par exemple, chapitre 6, je lis verset 20. Jésus se lève et dit à ses disciples, à ceux qui étaient autour de lui, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'ils vous chasseront, vous insulteront et rejetteront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père agissait à l'égard des prophètes. » Heureux, pas quand vous êtes aimés. heureux, pas quand vous recherchez toujours à être aimé en faisant du bien aux autres, à rechercher l'amour dans le regard des autres, mais heureux quand vous serez aimé avant tout par Dieu. Et qu'à cause de ça, vous serez prêt à faire du bien même à vos ennemis, même s'ils vous haïssent. L'amour pour soi va entraîner de la violence. Et c'est ce qui s'est passé en Afrique. Je me suis tellement aimé que je me suis enrichi et j'ai massacré les autres. C'est ce qui s'est passé à la Libération. Je me suis tellement aimé et j'ai tellement aimé mon frère, ma sœur qui a été massacré, que quand j'ai pu le faire, j'ai massacré à mon tour les autres. L'amour pour soi entraîne de la violence. Chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. » Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien, il nous dit. Ne vous inquiétez pas pour votre santé, pour votre maladie, pour votre vieillesse. C'est moi qui prends soin de cela. Parce que l'inquiétude entraîne de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude entraîne du stress et nous détruit. Mais recherchez Dieu avant tout. C'est là que se trouve la joie, verset 33 même. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais une richesse qui nous fait du bien. Une richesse qui nous construit. Une richesse qui dure. Alors il ne dit pas d'aller à poil et de ne pas travailler, n'est-ce pas? Mais ne mettons pas notre espoir là-dedans. Ne braquons pas notre vie là-dedans, toute notre énergie là-dedans, parce que ça ne va pas te combler, parce que ça ne va pas te satisfaire, parce que tu n'auras jamais assez. Mais si tu veux remplir ton cœur, si tu veux être heureux et être comblé, c'est de donner. Parce que tu es aimé et que tu as tout ce qu'il te faut par Dieu. Autre texte assez fort, chapitre 22. Verset 24. Alors que Jésus vient d'instituer la Sainte Cène, donc il a rappelé qu'il va mourir pour ses disciples notamment, qu'il va livrer son corps à la mort, voilà la discussion très importante des disciples. Il s'éleva parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Leur maître dit, je vais mourir. Et rien de mieux à discuter de lequel d'entre eux est le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Parce que le maître est venu non pour être servi, mais pour servir. Parce que vouloir être servi, vouloir être toujours dans cette course d'être le meilleur au travail, le meilleur aux études, le meilleur dans ce que je sais faire, nous entraîne dans une course sans fin. Une course toujours déstabilisante et rabaissante. Une course où on doit toujours se justifier et on n'aura jamais franchi la ligne d'arrivée. Et cela détruit et sépare encore une fois les hommes. Mais de servir va combler. Et Paul va reprendre cela plus tard. Galates 5, verset 13 nous dit ceci. Frères, vous avez été à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car la loi est accomplie dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu est en train de nous dire, tu veux savoir si tu es libre? Tu veux mesurer à quel point tu es libre? Regarde à quel point tu sers. Voilà la vraie liberté, c'est de servir. Parce que tu peux servir quand tu sais que tu es aimé par Dieu. Tu peux servir sans jamais regarder à toi quand tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Une valeur que personne ne peut t'enlever. Un amour que personne ne peut t'enlever. Et à cause de cela, tu n'as pas besoin de toujours te justifier, de toujours prouver, de toujours chercher à mériter, parce que tu le sais. Tu as de la valeur, tu es aimé. Et à cause de cela, tu n'as pas besoin du regard des autres et tu peux servir librement. Tu es vraiment libre. Et quand on lit le récit du livre des Actes, la suite de Luc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un monde transformé. Un monde transformé par l'Évangile. Un monde transformé parce qu'il a été bouleversé par des nouvelles valeurs. Parce que des personnes, des grands anonymes, dont l'histoire n'a jamais retenu le nom et ne la retiendra jamais, ont bouleversé ce monde en vivant ces nouvelles valeurs. Pas moi, mais l'autre. Parce que je suis aimé. Et ça, c'est la vraie liberté. Dieu est venu dans notre monde, il s'est incarné pour bouleverser nos valeurs et nos vies, pour nous faire entrer dans la joie, non seulement nous-mêmes, mais le monde entier. Et les disciples ont pu le vivre, pas simplement parce que Jésus-Christ leur a dit de le vivre, mais parce que lui, premièrement, le Dieu incarné, l'a vécu. Regardez la finale de Luc au chapitre 24, je lis à partir du verset 45. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Donc à ses disciples, on est après la résurrection. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ils ont pu vivre ce bouleversement de personnes et ce bouleversement de valeurs, pas parce que Jésus-Christ leur a dit, mais parce que Jésus-Christ l'a vécu en premier. Il a vécu ce bouleversement lui-même. Il a bouleversé les valeurs. Il n'est pas venu pour conquérir le monde, ni établir son royaume avec une armée, mais il a établi son royaume en se donnant, en s'offrant, en mourant lui-même, en servant jusqu'au bout, même le service jusqu'à la croix, où il a été exécuté dans la nudité, dans la plus grande honte aux yeux des hommes. Mais ça a été la plus grande gloire et la plus grande victoire aux yeux de Dieu, renversement de valeur. Lui, il était le plus grand, mais il est venu pour nous servir. Il s'est incarné. Lui était digne de notre amour, mais il est venu pour aimer avant tout. Et il nous a aimés jusqu'au bout. Encore une fois, l'incarnation jusqu'à la mort. Il est le Créateur, comme on l'a chanté, comme on l'a vu avec ses images, le Maître, mais il a vécu comme un disciple. Comme un disciple. Et il nous envoie à notre tour en tant que disciple. Pourquoi ? Parce que il a obéi parfaitement. Et en ayant vécu la vie parfaite de disciple, il est entré dans la gloire et il nous a ouvert le chemin de la gloire en nous invitant à vivre comme lui, pour vivre dans la gloire pour ses disciples et, comme nous a dit Marie, pour ceux qui le craignent. Alors à notre tour, il nous envoie vivre comme lui, selon ses valeurs et non celles de notre monde rebelle. Et cela, Marie a été la première, en fait, à le comprendre et à le vivre. Parce qu'au moment où elle chante cette joie, au moment où elle se réjouit à cause de l'œuvre de Dieu et en elle et dans ce monde, Marie est toujours cette jeune juive sous occupation romaine, privée de liberté. Marie est toujours cette jeune juive enceinte et fiancée, sans savoir ce qui va advenir de ses fiançailles, sans savoir ce que ses parents vont lui dire, sans savoir le regard que sa société va lui jeter. Mais actuellement, elle est une jeune fille sans valeur. Sans valeur aux yeux de la société, sans avenir aux yeux des hommes. Pourtant, ici, elle est dans la joie. Et elle exprime sa joie à cause de ce que Dieu est en train de faire. L'incarnation. Et à sa suite, dans notre monde et dans notre vie. Elle nous invite à la joie en Dieu seul. Et je te repose cette question. Alors, est-ce que tu es dans la joie aujourd'hui? Et notre texte dit, tu peux être dans la plus grande joie que tu puisses connaître, quelles que soient tes circonstances. Parce que ce texte nous dit, tu n'as jamais été autant aimé qu'aujourd'hui. Et pas à cause de moi, pas à cause de tes parents, pas à cause de tes résultats scolaires, pas à cause de ton travail, ni de ton salaire, ni de rien du tout, mais parce que ton Créateur t'aime. Il te l'a prouvé de la plus haute des matières. Deuxième question, dans ton travail, dans ton couple, dans tes relations, dans tes projets de vie, quelles sont les valeurs que tu adoptes? Et Dieu t'appelle ici, comme Marie, à accepter ce bouleversement de valeurs, non pas pour toi simplement, mais parce qu'au travers de toi, avec tes valeurs qui vont être bouleversées, Dieu veut changer le monde. Ta vie d'abord et le monde de manière globale, comme il a commencé à le faire dans le livre des Actes. Et c'est vrai que certainement tu veux réussir ta vie, certainement tu veux avoir du succès, et c'est très bien, parce que c'est exactement ce que Dieu veut pour toi. Mais non pas une réussite et un succès qui va être décevant. Non pas une réussite et un succès qui ne va pas te combler, qui ne va pas te rendre joyeux. Mais il veut te donner un succès et une réussite dans la seule chose qui va demeurer, qui va te combler et t'offrir cette joie, c'est le royaume de Dieu. Et ici, nous invite à rentrer dans ce succès, le succès de Jésus-Christ, la gloire dans laquelle Jésus-Christ est entré. Celle de la vie du disciple qui vit selon les valeurs du Maître. Ces valeurs transformées, bouleversées. Jésus-Christ est venu pour nous bouleverser, nous et nos valeurs, pour qu'aujourd'hui, nous puissions connaître cette joie de la relation retrouvée pour l'éternité. Je vous invite à prier.